check ça. Du tableau noir à la page blanche du lycée, chaque cours une nouvelle rime à ciseler. Le son qui pose les bases pour les esprits qui s'élèvent, ses regards sur l'école, la connaissance et la sève. De la cour de récré à l'examen, le flow est le même. On décortique le système car l'éducation est reine. La bande son de ta scolarité, écoute bien le thème. Regard sur l'école pour voir le futur qu'on sème.
Ouais, la connaissance et la sève.
Bonjour à tous, vous êtes sur la Radio Cause Commune, 93.1 et vous écoutez José dans Regard sur l'école. Donc Regard sur l'école est une émission qui questionne sur l'école et qui propose des éléments de réponse. Alors le sujet d'aujourd'hui ça va être autour des révisions scolaires. Donc dans 3 semaines, tous les élèves seront en vacances et selon l'article du Monde d'août 2025, il y a entre 20 et 40% de la population qui ne parvient pas à s'offrir une semaine de vacances hors du domicile chaque année. Donc, d'autres personnes sont les privilégiées, on va dire, et vont pouvoir aller se prélasser sur le sable chaud ou se ressourcer à la montagne ou à la campagne. Et pendant que ceux qui peuvent pas partir en vacances profiteront des événements organisés par leur ville ou de tous les paris plages et voilà toutes les thématiques autour des plages. Et parmi les vacanciers et les non-vacanciers, et ben certaines personnes passent les vacances autrement, notamment il existe des colonies de révision. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a des colonies vacances studieuses. Ça, c'est des thématiques, des titres de colonies. Colonies de vacances studieuses, colonies de révision. Il y a les stages de rattrapage. Et jusqu'à présent, il y a toujours l'école ouverte qui est proposée dans certaines villes, hein, où les établissements, collèges, lycées, proposent des activités culturelles, sportives et des révisions aussi pour les élèves. Et donc en fait ces vacances on va dire apprenantes hein, donc permettent aux élèves de réviser avec des plans personnalisés et des révisions sur mesure. Ça leur permet de se remettre à niveau et de préparer des examens ou des concours. Et jusqu'à l'année dernière, il y avait ce qu'on appelle les vacances apprenantes, qui étaient proposées par l'Éducation nationale. Et pour cause de budget, le principe de vacances apprenantes a été supprimé, en fait. Donc, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que réviser pendant les vacances scolaires va avoir une influence sur la réussite scolaire ? Donc, pour en parler, nous avons 2 invités qui vont se présenter. Allez-y.
Alors, je suis Prisca, professeure de physique chimie au lycée, donc première, seconde, terminale, mais aussi en BTS 1 et 2e année.
D'accord. Est-ce que tu as déjà enseigné au collège ?
Oui, la toute première année, j'ai enseigné au collège. J'ai eu principalement des secondes et une classe de 4e.
D'accord. Pourquoi seconde ?
Parce que lorsque j'ai été mutée dans mon autre lycée, j'ai eu des secondes.
D'accord, la première année. D'accord. Très bien.
C'est pour ça.
Merci Prisca.
Et moi, du coup, je suis Sandra, je suis professeure de lettres-histoire en lycée professionnel depuis 8 ans maintenant.
D'accord. Est-ce que tu as été amenée à enseigner au collège ?
Non, juste des lycées professionnels.
D'accord, très bien. Bon, je vais vous dire la vérité, ce sont mes collègues. Nous nous connaissons. Bon, allez, c'est parti. Alors, belles et filles, l'une d'entre vous va prendre la parole. Est-ce qu'il faut donner des devoirs aux enfants pendant les vacances ?
Alors après, ça dépend de quelles vacances on parle. Si on parle des petites vacances, moi, je ne donne pas personnellement pendant les petites vacances. En dehors des gros contrôles, les élèves n'ont pas de devoirs. Après, c'est pour les faire travailler durant les grandes vacances pour qu'ils puissent rattraper leur retard. Peut-être, oui. Ça dépend.
Ça dépend de quoi ?
Ça dépend des difficultés de l'élève. Est-ce qu'il a bien réussi son année ? Est-ce qu'il n'a pas bien réussi ? Est-ce qu'il a toutes les bases dont il a besoin pour l'année d'après ? Parce que selon le niveau, forcément, si les élèves n'ont pas les bases solides, ça va être compliqué l'année d'après. Donc, travailler durant les vacances pour consolider certaines bases, c'est plutôt intéressant.
D'accord, mais est-ce qu'il faut que ce soit une démarche personnelle de l'élève ou est-ce que tu proposes aux élèves je ne sais pas, tu les convoques. Bon, peut-être que ce serait bien que tu révises cet été ou pendant les vacances.
Alors, c'est ce que j'ai fait avec mes élèves de seconde. J'en avais qui voulaient passer en classe supérieure en première ST et 2D. Et du coup, je leur ai dit, au vu de vos difficultés dans telle et telle matière, je vous conseille très fortement de travailler sur tel et tel point. En physique-chimie, moi, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai donné des fiches de révision avec les formules principales, ce qui leur serait utile pour la première et pourquoi pas la terminale. Pareil pour les mathématiques, qui est une matière qui est très fortement liée à la physique-chimie. Je leur ai dit, attention les mathématiques. Et là, ce que j'ai prévu de faire dans les prochains jours, c'est de leur donner les points principaux qui sont en accord avec la matière, pour qu'ils puissent rattraper leur retard.
Mais est-ce qu'ils semblaient être intéressés ou parce que tu l'as dit comme ça, mais ils peuvent avoir mis dans le sac et puis allez, je passe à autre chose.
Alors, il y en a une, oui.
Elle parle toujours.
Il y en a une, oui. D'ailleurs, c'est même elle qui est venue me voir en me disant « Madame, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me donner les points principaux en mathématiques ?» Je lui ai dit oui, donc c'est pour ça que je vais faire prochainement. En physique, ça a été mon initiative. Ça a été mon initiative parce que je sais que selon le tempérament des élèves, il y a plein de paramètres qui font que pour certains, il faut leur tenir un peu la main et leur dire ça, c'est pas acquis. Si ça, c'est pas acquis là maintenant, l'année prochaine, ça va être compliqué. Donc, si tu travailles pas durant les vacances scolaires, tu pourras pas t'en sortir.
Après, t'as aucune garantie qu'ils le fassent, quoi.
C'est ça. J'ai pas la garantie, mais au moins.
De mon côté, c'est particulier parce que tu connais aussi, hein, professeur d'élèves en professionnel. Genre, je sais pas comment tu fonctionnes, mais moi, en tout cas, je sais que déjà, des devoirs, je donne très peu dans l'année scolaire. On fait souvent tout en classe. Si je leur donne des choses, c'est que j'ai besoin de m'avancer parce qu'on a pris du retard et que j'ai pas franchement le choix. Et effectivement, du coup, il y a une grosse diff, et c'est là-dessus où je te rejoins, entre les petites vacances et les grandes vacances. Pendant les petites vacances, on a quand même besoin de les mobiliser, parce qu'ils vont revenir, il faut quand même qu'on puisse reprendre tout de suite ce qui va se passer. Donc moi, je leur demande tout le temps de relire, de revoir. J'ai pas d'exercice à proprement parler, mais au moins de relire le cours, et que quand ils arrivent dans mon cours, que ce soit en histoire ou en français, ils sachent de quoi on parle. Donc du coup, c'est plus ou moins ce que je leur demande de faire.
Mais est-ce que c'est fait ?
Ça dépend des élèves, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que de toute façon, on a des élèves qui vont l'avoir fait et d'autres qui n'en ont pas franchement envie et qui prennent pas le temps et qui déconnectent totalement. Après, je les blâme pas, hein, parce que je pense que c'est humain et c'est ce qu'on fait plus ou moins tous. Et j'ai été un caractère comme ça, à pas franchement travailler pendant les vacances, donc je vais pas les blâmer. Après, c'est toujours la même chose. On leur propose, ils font pas. Mais c'est vrai que j'ai jamais imposé des devoirs vraiment... Enfin, si... Là, dernière vacances, ils avaient un livre à lire. Ça a été un échec total. Ils avaient un chapitre de livre. Je pense que sur mes 33 élèves, j'ai dû en avoir 7 qui ont dû le lire.
Mais est-ce que c'est pas parce qu'ils ont pris l'habitude de ne rien faire, de pas travailler pendant les vacances, de pas travailler peut-être aussi certains pendant l'année, que soudainement, ils vont pas se mettre à travailler pendant les vacances ?
Après, le problème, c'est que on a un public aussi qui est différent, Prisca et moi, par rapport à un autre type d'élèves. Donc, nous, déjà, on récupère des élèves qui sont en difficulté au collège. Donc, du coup, faut bien imaginer, prof de français et d'histoire en matière professionnelle, enfin, dans des parcours professionnels, on n'est pas les matières déjà qu'ils adorent. Donc, on essaye de les porter avec le sourire tant qu'on peut, puis essayer de les raccrocher parce que c'est parfois difficile. Donc du coup, il faut leur réapprendre un petit peu à retravailler des choses qu'ils avaient abandonnées ou avec lesquelles ils pensaient que c'était mort parce que c'était trop dur. Donc c'est compliqué, quoi. Donc après, on a les bons élèves qui vont prendre le pli de faire leurs devoirs, de réviser, qui savent de quoi on parle et qui pendant les vacances le feront, et d'autres non.
Mais est-ce que par rapport au profil de tes élèves, ouais, est-ce que s'ils avaient pris l'habitude ou s'ils avaient pu bénéficier de vacances apprenantes ou d'un accompagnement pendant que ce soit les vacances d'été ou les petites vacances, est-ce que ça aurait peut-être pas pu réduire justement le niveau de leurs difficultés ?
De toute façon, ça aurait forcément eu un impact. Mais après, de toute façon, ce genre de système, il faut déjà que l'élève le veuille, que les parents prennent le temps aussi de s'informer et les inscrivent. On a quand même des facteurs d'inégalité qui arrivent aussi là-dedans par rapport à ça. ils sont pas tous sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que ceux qui vont avoir des parents qui sont derrière et qui vont peut-être les pousser à s'inscrire, bah ceux-là, peut-être que ça va aider. Mais ceux qui sont un peu... comment je vais dire ça ? Bah, libres et qui n'ont pas leurs parents, qui ne prennent pas le temps forcément de les suivre, bah, ce n'est pas eux qui vont s'inscrire d'eux-mêmes, quoi.
Mais finalement, est-ce qu'il faudrait encourager les parents à suivre la scolarité de leur enfant et,
Bah oui, bien sûr. Évidemment. De toute façon, jusqu'à ce qu'ils terminent l'école, les parents devraient quand même un minimum être impliqués. C'est pas parce qu'on est... Enfin, nous, on est sur des lycéens, donc en fait, on a tendance à penser qu'ils sont grands et indépendants. Mais bien souvent, les décisions, ils ont très vite fait d'oublier l'importance de leurs études. Et nous, on les récupère après en terminale, où ils se rendent compte que le bac arrive. Puis, ah bah ouais, mais j'ai pas travaillé. Puis, bah oui. Ça fait 3 ans qu'on te le dit, et c'est compliqué, quoi.
Mais quelqu'un qui a pris l'habitude de travailler peut pas travailler du jour au lendemain.
Tu veux dire quelqu'un qui a pas pris l'habitude?
Oui, c'est ce que j'ai dit, non?
Non, j'ai dit l'inverse. T'as oublié la négation, c'est pas...
T'as oublié la négation, ouais.
Oui, donc celui qui a jamais pris l'habitude de travailler, ça va pas se faire du jour au lendemain.
Ah bah ça c'est compliqué.
C'est une discipline.
Ça c'est compliqué.
Donc
oui.
Finalement, est-ce qu'il faudrait pas former certains parents ou mieux les informer sur le côté indispensable, obligatoire de suivre la scolarité au moins jusqu'à un certain âge?
Oui, bah, déjà Prisca, je pense que c'est quelque chose qui doit être fait dès le collège déjà. C'est-à-dire que très souvent les parents ils suivent leurs enfants jusqu'à la 5e, 4e. Et après, comme l'a dit Sandra, une fois qu'ils estiment qu'ils sont suffisamment grands, suffisamment indépendants pour apprendre et travailler seuls, eh ben, on a les parents qui les lâchent un peu dans la nature. Et malheureusement, c'est un suivi qu'on ne voit plus même en seconde. Hein. Moi, je vois, lorsqu'on a par exemple des réunions, enfin, apparemment, on ne voit pas les parents. Quand on les appelle, ils ne répondent pas, ils ne décrochent pas. Enfin, c'est hyper compliqué. Donc, déjà, si on n'a pas le contact direct avec les parents, on peut se demander où se trouve le suivi à ce moment-là. Donc, le suivi doit être fait clairement de la maternelle jusqu'au lycée. Alors, peut-être un peu moins au lycée, parce que c'est vrai qu'il y a des parents qui vont dire, bon, voilà, moi, mon fils, par exemple, il a pris... Je prends mon cas, par exemple, mon fils a pris SP maths, SP physique chimie. Moi, j'y connais rien. Donc, du coup, je ne vais pas aider mon fils. Et ils ne vont pas avoir ce réflexe de dire, ah bah tiens, peut-être que je vais prendre des cours particuliers pour lui, ou peut-être le mettre... parce qu'au lycée, on a des cours de quart, ce qui est pratique.
Qu'est-ce que c'est, le quart?
Alors, les quarts, ce sont des cours particuliers qu'on fait au lycée. Qui sont faits par un enseignant et qui sont gratuits. Donc, c'est plutôt pratique pour les élèves qui sont en pro, en BTS ou en filière générale. C'est accès tout le monde peut y accéder, pardon. Et certains parents n'ont pas cette initiative.
Mais est-ce que tous les parents ont bien conscience de l'existence de ce dispositif?
Après, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire qu'en début d'année, bien souvent, quand on récupère nos classes, on a une réunion d'information aux parents. Ben moi, je sais que bon, cette année, ça a marché, mais l'année dernière, sur 30 élèves, j'avais 5 parents à ma réunion. Donc, c'est à ce moment-là qu'on leur présente les cours de soutien, que ce soit les cours de tutorat pour les aider justement à se motiver, à les mobiliser, ou alors les cours de quart, comme Prisca vient d'en parler, avec les cours particuliers. Mais c'est pareil, en fait. Et puis, généralement, quand arrive le premier semestre, quand on fait un premier point, on a les réunions parents-prof, auxquelles on en reparle à nouveau. Mais c'est pas souvent les parents qui vont sur les sites pour inscrire leurs enfants. Ça reste les enfants qui le font. Après, là où je rebondis aussi, c'est que bien souvent, les parents, ils ont leurs grands-enfants, mais ils ont aussi d'autres enfants qui sont peut-être en primaire ou qui sont au collège et qui, du coup, ont besoin peut-être plus d'attention. Donc, c'est plus facile de laisser plus ou moins les lycéens se débrouiller parce que, ben voilà, ils commencent à grandir, ils commencent... à devenir autonome, donc du coup, ils n'ont pas autant... Enfin, à l'heure des recherches, souvent, c'est ça aussi, quoi.
Moi, j'ai remarqué aussi qu'il y a des élèves qui n'ont pas compris qu'il fallait travailler un minimum pour réussir, ou en tout cas pour réussir les évaluations. Moi, je suis même à petit niveau. Et il m'est arrivé de demander à certains élèves, mais comment tu fais pour réviser? Et ils me disaient, je lis plusieurs fois. Bon, dans certaines matières, ça peut fonctionner, bon, mais les mathématiques ou tout ce qui est lié au calcul...
Bah, faut s'entraîner.
Ouais. C'est pas possible. Bon, sauf ceux qui sont très doués en maths, bon, eux, peut-être qu'en lisant une fois et en suivant en cours, ça suffit. Mais tous les autres, la plupart des élèves qui sont pas souvent à l'aise en maths, je leur dis, mais non, mais il faut refaire. Ah non, c'est trop long, c'est trop compliqué. Il faut refaire. Il y a qu'en refaisant qu'on peut se rendre compte si on est capable de refaire ou pas. Si on comprend ou pas.
Et puis surtout, il ne faut pas qu'ils s'y prennent à la dernière minute, parce que très souvent, les élèves vont vous dire « Ah bah j'ai révisé la veille ». Mais bah non, si on te donne le contrôle une semaine à l'avance, moi des fois, je leur donne les devoirs 3 semaines à l'avance, comme ça, après, ils ont le temps de travailler, il y en a qui arrivent à me dire « Madame, j'ai pas été révisé hier », sachant que le contrôle, je l'ai donné il y a plusieurs semaines tout de même. Donc, il faut absolument que les élèves se disent, lorsqu'on leur donne une évaluation une semaine à l'avance, voire deux semaines à l'avance, il faut absolument qu'ils s'y prennent à ce moment-là, et pas qu'ils attendent la dernière minute, parce qu'entre-temps, il y a plein de cours aussi qui... Ils ont plein de cours, ils n'ont pas connaître matière à nous. Ils ont environ une dizaine de cours différents. Donc ça, si c'est une charge qu'ils ont les élèves, il ne faut pas oublier qu'ils ont énormément de cours, qu'ils sont assis là toute la journée à emmagasiner des informations qui, sûrement, ne les intéressent absolument pas. Donc, il ne faut absolument pas qu'ils s'y prennent à la dernière minute. Ça, c'est une chose aussi importante.
Après, c'est hyper compliqué quand même, parce que moi, je trouve que notre système, il n'est pas... Enfin, alors, je parle du pro, parce que, bon, encore, le général, il y a des épreuves en première. Donc, parfois, ça les remobilise un petit peu, le fait d'avoir des épreuves en première. Mais nous, en fait, on a juste le bac pro qui arrive en terminale. Il n'y a aucune épreuve entre-temps. Donc, ils arrivent en seconde et en première en se disant « Bon, j'ai le temps. » Pour eux, ça paraît loin et ça paraît pas réel. Et en fait, ils ont le déclic en terminale en se disant « Bah mince, j'ai accumulé du retard. Mince, va falloir que je m'y remette. » Alors qu'en fait, ils ont perdu du temps. Et c'est un petit peu le problème. C'est qu'il y a encore quelques années, on avait une épreuve intermédiaire en première. Ça les permettait un petit peu de se recentrer et de d'apprendre vraiment à travailler pour un objectif. Mais là, c'est plus le cas. Et donc, ils arrivent en terminale, et là, d'un coup, le rythme, il s'accélère. On est obligé de leur faire emmagasiner encore plus de choses en peu de temps, parce que le bac approche. Et c'est là qu'on les perd aussi beaucoup. Enfin, on a eu un exemple cette année. Moi, j'ai un élève, je l'ai complètement perdu cette année. Il était complètement à la ramasse. Il est revenu 3 semaines avant le bac. Alors là, d'un coup, il était là tous les jours. Mais même à aller se faire des cours de dernière minute pour des calculs commerciaux qu'il ne comprenait pas, parce qu'il n'avait jamais révisé avant.
D'accord, mais en fait, je reviens sur mon sujet. Là, par exemple, très bientôt, là, dans 3 semaines, ce sera les vacances scolaires pendant presque 2 mois. Est-ce que ça a une utilité de réviser pendant les vacances? Parce que, en fait, ce que je me dis pendant l'année, avec le rythme qu'ils ont, hein, notamment au lycée, mais même les plus petits, hein, les journées, elles sont complètes, elles sont pleines. Ils vont, les petits, par exemple, si je prends des élémentaires, ils vont à l'école de 8h ou 8h30. Parfois, ils sont dans la structure scolaire jusqu'à 18h. Le soir, est-ce qu'ils ont réellement le temps de réviser les différents cours qu'ils ont eus, que ce soit collégiens, élémentaires ou même les lycéens? Souvent, les lycéens, bon, on est tout au lycée. Madame, nos journées, elles sont trop chargées, on n'en peut plus. Nous, on sort d'ici, on sort du lycée, c'est pas pour aller réviser. Donc, je me dis, mais déjà dans l'année, ils ont très peu de temps pour enchaîner. Il y en a certains qui décrochent. Donc voilà, le train, il est parti, ils sont pas dedans. Mais à quel moment, dans ces cas-là, est-ce qu'ils ont vraiment le temps de se poser et de revenir sur des notions, des points qu'ils ne maîtrisent pas ou sur lesquels, ils sont pas très à l'aise? Quand est-ce trouvé ce temps-là, si déjà pendant l'année, ils en peuvent plus? Moi, je prends l'exemple de mon fils, il fait 8h, 17h, 17h30 tous les jours. Tous les jours. Sauf le mercredi, je crois. Il termine à 13h. Et moi, justement, je lui ai dit, là, révise pendant les vacances. Revois les notions ou travaille, avance-toi pendant les vacances. Pendant l'année, tu n'y arrives pas. Plus les activités extrascolaires, là, il y a les cours, plus... en tout cas, pour moi, c'est indispensable qu'un enfant ait des activités extrascolaires, que ce soit musique, dessin, culture, bon... Mais à quel moment, finalement, est-ce qu'ils ont le temps?
Mais le problème des vacances, en fait, c'est que je pense qu'il faut garder un rythme quand même de travail, mais qu'il soit quand même beaucoup moins soutenu. Il ne faut pas non plus trop les forcer, parce que de toute façon, ils ont quand même la notion de vacances qui est acquise. Et du coup, les mobiliser, c'est compliqué. Donc après, qui s'en charge? C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'ils ont quand même besoin d'un soutien. Donc nous, les profs, on n'est pas à côté d'eux pour leur tenir la main, puis ils nous oublient. Quand on a 2 mois de vacances, on n'existe plus. Donc bien souvent c'est les parents, mais après tous les parents. Donc est-ce que tu mets en place? Enfin moi je sais, d'expérience personnelle, quand j'ai été en primaire, ma hantise des vacances scolaires, c'était le cahier journal, quoi. Enfin,
le cahier de vacances.
C'était un enfer, ce truc.
Moi, j'adorais ça.
Ah, mais moi, j'angoissais.
J'adorais ça aussi. Hein.
J'angoissais devant mes exos de maths que je comprenais rien. Et puis, en plus, toi, t'avais appris d'une manière à faire ton machin. Puis, en fait, derrière, quand tu regardais la réponse, c'était pas le même calcul. C'était un enfer. Ma mère, elle était là, elle en pouvait plus derrière aussi. C'était un enfer. Et puis, c'était tous les jours, fais ta page. Ah, bah oui, bah, on perdait une heure. C'était une heure horrible. Donc c'est vrai qu'en fait, il faut trouver quand même les bonnes solutions. Non mais en vrai, il faut quand même trouver des choses qui les portent. Non mais moi, je sais que ça a été, mais je revois même la tête de mon frère quand il devait les faire. Alors que j'avais... Non, c'était horrible. Ça a été un trauma, vraiment.
Mais alors attends, parce que tout à l'heure, je parlais des 20%, 20 à 40% des personnes qui ne pouvaient pas partir en vacances. Ah, moi, je fais partie de ceux qui partaient pas tout le temps en vacances. Ouais. Bon, je me souviens de 3-4 colos, mais sinon, je crois que j'étais dans le quartier. Nous, on n'avait rien à faire. Tu vois, si, ils traînaient avec les copains l'après-midi, mais pendant les vacances, les journées, elles sont longues.
Oui, c'est sûr.
Donc, moi, peut-être parce que j'avais pas de quoi faire, j'étais contente d'avoir des cahiers de vacances.
Moi, tu sais, moi, j'étais
ça m'occupait, il y avait de la décoration et tout ça, je me disais
j'étais,
ouais.
Au fin fond de la Bourgogne, il n'y avait pas grand-chose à faire non plus. Hein. Déjà, si tu n'étais pas vaillukilé, tu ne pouvais pas faire grand-chose non plus. Mais moi, je t'avoue que c'était un enfer, parce qu'en plus, fallait ma mère, la patience, bon, c'était pas ça qui était ça. Donc, le truc, c'est que c'est toujours pareil, c'est les faire travailler pendant les vacances. Ça peut être une bonne idée, mais il faut que ça soit un minimum ludique. Il faut que ça soit quelque chose qu'ils aient envie de faire.
S'ils ont le choix, ça va être non, rien, il y a mon téléphone. Donc...
Oui, mais tu peux leur inculquer des choses sans forcément passer par des exercices sur table, faire des maths. Ou... Enfin, c'est important, hein, je te dis pas. Et peut-être instaurer un programme de révision la semaine avant ou les deux semaines avant la reprise, quoi. Enfin, qu'ils aient quand même une vraie déconnexion. Et du coup, deux, trois semaines avant, t'arrives le 15 août, tu dis bon, allez, ça sent la reprise, on essaye de revoir un peu ce que t'as fait l'année dernière. Enfin, j'en sais rien. Mais il y a d'autres manières de reconnecter. Enfin, moi, je pense en français, je me dis, bon, déjà, enfin, je réfléchis un peu, mais en français, tu peux déjà lire. Ouais. Lire des articles. En plus, tu essaies de te connecter un petit peu à l'actualité, ça fait mal à personne. Tu peux déjà essayer de lire des articles ou des BD ou juste un livre sur un terme qui t'intéresse, même si c'est compliqué aujourd'hui de faire lire des élèves. Mine de rien, c'est une manière d'entretenir quand même les choses. Tu peux y regarder des films, essayer de les regarder en anglais, histoire d'entendre un peu de langue étrangère, c'est toujours ça de pris. Enfin, je pense qu'il y a des manières quand même de les reconnecter à l'école sans forcément les mettre sur une table avec un stylo. D'autant qu'il y a des parents qui peuvent peut-être se permettre d'avoir des cours particuliers, qui peuvent les payer. Il y en a d'autres, ils peuvent pas, quoi. Donc, c'est pareil aussi, ça crée quand même des inégalités, enfin, c'est hyper compliqué, quoi. Ça dépend des moyens de chacun, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
Ça accroît les inégalités, oui. Et qu'est-ce que tu penses de l'utilisation de la tablette ? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'applications qui permettent aussi de travailler, entre guillemets, du pédagogique autrement, de façon un peu plus ludique.
Moi, je t'avoue, décrochez-les de ces téléphones, de ces tablettes, de ces écrans, qu'ils aillent voir ce qui se passe dehors, qu'ils aillent identifier des arcs dehors, j'en sais rien. Non, en vrai... Pour les langues, peut-être que t'as Duolingo qui peut être sympa ou ce genre de...
Voilà, Duolingo, c'est limité quand même, hein. Au bout d'un certain temps...
Ah bah écoute, moi je sais dire chat en italien, je suis très contente, tu vois. Ça m'a pris 3 semaines, mais du coup, mine de rien, voilà. Non mais ça peut quand même servir, enfin ce genre de choses, mais non, mais ils sont déjà foutus sur leur téléphone tout le temps.
D'accord, non, mais... parce qu'il y a des parents, je pense qu'ils ont pas en tête... tiens, je pourrais proposer ça à mon enfant. Non, par exemple, après... des visites culturelles, il y a plein d'endroits qui sont gratuits, où il y a plein de possibilités. Je suis d'accord avec toi, il faut qu'ils sortent et qu'ils voient autre chose. Oui, mais Prisca.
Alors, c'est gratuit pour les enfants, mais pas forcément pour les parents aussi. Parce que du coup, les parents...
Disons que, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ils peuvent se rapprocher de leur mairie. Bien souvent, les mairies, ils organisent des choses. Ils permettent aux enfants de faire des sorties, il y a pas mal de choses à faire. Quand t'es en région parisienne, quand même, c'est hyper accessible. Tu peux aller faire des expos gratuits. Le Petit Palais, par exemple, il est en visite libre. T'as Carnavalet, qui est le musée Carnavalet, qui est sur l'histoire de Paris. Il me semble qu'il est gratuit pour tout le monde. Après, tu peux aller te promener dans Paris. T'as pas mal de choses. T'as des visites ludiques. Alors, c'est sûr que... Alors, je le répéterai jamais assez, mais en tant que pays de l'Union européenne, tous les monuments nationaux sont gratuits jusqu'à 25 ou 26 ans, je crois. Chaque fois, je le dis aux élèves, allez sur Paris, allez voir. Il y a des choses qui sont gratuites pour vous. Pour les lycéens, c'est plus facile. Mais c'est vrai que je regardais quand même un petit peu le prix d'une sortie sur Paris quand t'es une famille de 4 ou 5 enfants, t'en as vite pour 50-60 euros. Bon, tu fais pas ça 15 fois pendant tes vacances, quoi.
D'accord. Et qu'est-ce que tu proposes justement pour les familles nombreuses ou ceux qui n'ont pas forcément le budget pour?
Bah, je te dis, tu as des expos permanentes dans des petits musées qui parfois sont ouvertes aux parents. Enfin, de toute façon, il faut partir du principe que pour les enfants, normalement, c'est toujours gratuit. Un parent, je regardais tout à l'heure, par exemple, le Louvre, je crois que ça doit être 44€ pour deux.
Ah bon?
Ouais. Ouais, parce que c'est 22€ le billet, donc pour un adulte. Donc,
bon, moi, je connais que le premier dimanche du mois qui est gratuit, donc moi, je suis allée.
Non, bah puis nous,
que le dimanche,
nous la chance qu'on a, nous la chance qu'on a, c'est que comme on est professeur, on a le droit au pass éducation, donc tous les monuments nationaux ne sont ouverts. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que moi, je fais beaucoup de choses, mais je dépense pas grand chose, mais je fais quand même beaucoup de choses parce que j'essaie de profiter de ça. Après, tu peux sortir un peu. Pour peu que tu aies un peu de voiture, tu peux aller faire des châteaux. Tu as des entrées à 10€, 13€. C'est toujours ça de fait et ça te permet de voir des choses aussi.
Mais par exemple, par rapport au musée, les expos.
Ouais.
Bon, ça, c'est mon point de vue. Hein. Ça, c'est comme pour l'opéra et le théâtre. Non, pas moi, le théâtre. L'opéra et puis il y a quoi d'autre déjà?
Où le ils ballet, dansent.
Ou ouais, le ballet, c'est ce que je cherchais. Mmh. Mais pour moi, il faut avoir été initié ou il faut être accompagné de quelqu'un qui s'y connaît un peu.
Oui, mais parce il y a une première fois à tout.
Oui. Oui, mais est-ce qu'on peut y prendre goût, par exemple, à certaines expos où, Sandra, tu te souviens, on avait ramené les élèves à... On a emmené les élèves à...
À l'Assemblée nationale et
non,
après
non, au, musée d'Orsay.
Au musée d'Orsay, on avait fait les deux.
Mais tu as bien vu qu'en 5 minutes, certains avaient fait le tour.
Ouais.
Ils avaient terminé leur visite.
Ouais, ouais, ouais.
Ah oui, quand même.
Ah bah puis alors tu les aurais vus dans l'expo. Après l'expo les intéressait pas, tu vois, mais t'as parfois des expos qui sont sympas. Enfin l'autre coup au petit palais, t'avais.
Mais c'était intéressant. C'est peut-être que eux ils n'avaient pas. Je sais pas. Je trouve qu'il faut avoir été initié ou avoir quelqu'un qui commente ou qui t'explique certaines choses.
Et en même temps, juste avant, on était allé à l'Assemblée nationale et ça ils ont adoré.
Parce qu'on que avait ça brillait partout. Hein.
Oui, mais parce qu'on avait pris le temps aussi de réexpliquer. Oui, alors par contre, on est ressortis, ils nous ont dit, vous nous faites bien suer. Non, mais moi, ils m'ont perdu. Non, mais ils étaient là, vous nous faites suer à rester en classe tranquille. Vous les avez vus, eux, ils sont sur leur portable, ils mangent, ils crient, ils s'insultent. Oui, bah, prends pas l'exemple, s'il te plaît, de nos députés.
Non, mais je suis assez d'accord avec ça parce que la première fois que je suis partie à l'opéra, c'était avec le lycée. Et grâce à ça, je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas regarder d'autres opéras, même si c'est à la télé, même si c'est sur YouTube. Et je suis d'accord, je pense qu'il faut quand même qu'une personne nous accompagne au moins pour la première fois, voir peut-être la bonne pièce de théâtre, la bonne exposition, le beau musée. Je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que moi, du coup, je me suis vraiment intéressée à l'opéra grâce à ma sortie de seconde. Sinon, je pense que j'aurais jamais regardé d'opéra de ma vie.
Parce que t'as été accompagnée. Après, là, pour le coup, le musée d'Orsay, on est rentré là-dedans, on leur a dit, bon, allez, vous vous promenez, on se retrouve dans un quart d'heure, 20 minutes. À aucun moment, on leur a présenté ni les œuvres, ni quoi, ni qu'est-ce. Enfin, voilà, c'était un peu...
Non, mais c'était grand, c'était compliqué.
Oui, c'était compliqué. Puis en fait, mais en soi, t'as quand même des élèves, en fait, qui pensent que c'est pas accessible. Enfin, moi, parfois, les premières, je leur dis, mais vous pouvez... Puis ils sont là, ah bon? Mais oui, en fait. Allez-y, quoi. Parce qu'en fait, bien souvent, enfin, nous qui sommes un peu en dehors, enfin, on n'est pas à Paris même, on est en banlieue. Quand ils disent on monte à Paris, ils s'arrêtent à Châtelet, ils vont jamais plus loin. Non, mais c'est vrai, quand ils disent je suis à Paris, bah, t'as fait quoi? J'étais à Châtelet. Ouais, enfin, d'accord, mais en fait, avance un peu, tu verras, il y a la Bourse du Commerce, tourne à droite, t'auras l'église, enfin, l'église où t'as des cathédrales, où il y a des choses à voir dans lesquelles tu peux rentrer.
Pas, ils peuvent pas le deviner parce que déjà, ils ont pas ce. Il y en a quelques-uns qui sont curieux et qui s'intéressent, mais les autres.
Ils explorent pas. Ils explorent pas,
oui,
en fait.
Oui, mais comment veux-tu explorer des choses dont tu ignores l'existence?
Non, mais faut les guider.
Tu vas pas chercher quelque chose que tu.
Non, mais je suis d'accord, faut les guider. Hein. Moi, je veux dire, les élèves, lorsqu'on les a amenés à l'exposition de Magellan à Paris, ils ont apprécié. Et je pense que dans leur tête, ça leur est jamais venu à l'esprit. Ils disent, ah bah tiens, je vais aller dans un musée demain. Mmh. Et en effet, ça n'a personne autour de nous pour nous dire, ah bah tiens, si ça serait bien que tu viennes avec moi demain dans un musée, dans un parc national. Je pense que, en fait, les élèves, ça leur traverse pas l'esprit. Et je suis assez d'accord. Pour le coup, c'est malheureux, mais c'est un peu vrai. Hein.
Et en même temps, c'est ça, c'est pareil. C'est une responsabilité des parents. Mais enfin, je veux te dire honnêtement, moi, j'ai pas des parents. On n'a jamais compris pourquoi. Hein, parce que moi, j'ai pas des parents qui aiment les sorties culturelles. Ils aiment pas lire. En fait, j'ai jamais compris comment j'ai fini prof de français, d'histoire, parce que pour le coup, ça vient pas de la maison. Donc, c'est vrai que souvent, c'est moi qui les tire allez,
oui,
on va
mais
se promener,
peut-être
on
que
va...
ta nature fait que tu t'intéressais
mais parce qu'en fait,
aux choses indépendamment de tes parents.
Bien souvent, j'allais, enfin, quand je montais à Paris, j'allais me promener, je savais pas forcément où étaient les choses, j'allais me promener, je voyais des choses, bon bah tiens, pourquoi pas, enfin... C'est ça marche par là aussi. Enfin, un élève qui sort, qui va juste faire le, enfin, qui longe la Seine. T'as 18 bâtiments en face de toi. Tu peux te demander, bah tiens, c'est quoi? Aller regarder sur Internet et puis te dire, bah ce serait peut-être sympa d'y aller. Même si tu sais pas, tu longes juste la Seine. T'as tout à portée de vue qui peuvent aussi éveiller ta curiosité.
Et dis-toi que ce seront les mêmes qui sauront te dire quelle est la dernière paire de Nike qui est sortie, hein. Ou d'Adidas. Hein. Alors ça, je peux te dire qu'ils savent. Ça, ils sont au taquet, ils savent. Pour le coup, mais ça dépend aussi de leurs intérêts. Je veux dire, il y a des élèves, je pense que le musée d'Orsay, ça leur dit rien. Les châteaux, ça leur dit rien.
Mais c'était, il y avait une exposition qui était intéressante, une exposition temporaire, c'était autour de la publicité.
Oui, mais pas c'était si tu très souviens. Centré années 20 et tout ça.
Oui, mais bon, ça leur permettait de découvrir voilà, une autre époque.
Oui, oui.
Bon, je sais qu'ils se disent que, bon...
C'est vieux. C'est le siècle dernier pour eux, c'est trop loin pour eux.
Ah bah laisse tomber, j'ai essayé de jouer un jeu de musique avec eux. Quand je me dis, ouais, c'est bon, j'ai de la culture, madame. Ok, d'accord, très bien. La vie en rose? Oui, c'est Charles Aznavour, j'ai dit, ouais. Bon, bye. Ça va être long, les gars. C'est pas grave. On va écouter quand même.
Donc finalement, c'est notre rôle à nous, enseignants, et aussi aux parents aussi.
Mais du coup, ça limite les vacances.
De les éveiller.
Les vacances, on n'est pas là. Donc on a beau leur faire. Moi, souvent, je leur fais la liste des choses qu'ils peuvent faire pendant les vacances.
Ah, enfin, c'est bien ça.
Quand j'en parle, je leur dis, je sais, bah, tu peux aller visiter ça, tu peux aller voir ça, tu peux. Puis après, quand je les revois à la rentrée, bah alors, ah bah du coup, j'ai pas eu le temps. En fait, ils n'en avaient pas l'envie. Ben moi, je sais que j'aime bien quand même leur conseiller. Puis à chaque fois qu'on parle d'un sujet en histoire, notamment, je leur dis, bah, y a tel musée qui propose ça, il y a tel musée qui parle de ça. Allez là-bas. Et à chaque fois, ils nous disent, ah ouais, ça a l'air cool et tout. Mais en fait, ils te demandent, bah, on peut aller en sortie. Sauf que bah, nous, on ne peut pas faire 15 sorties dans l'année non plus.
Oui.
Mais de eux-mêmes, ils ne vont pas forcément se dire, bah, tiens, on est toutes les trois ou trois copines de la classe qui vont dire, bah, tiens, on pourrait y aller toutes les trois ensemble. Non, ça ne leur vient pas en tête.
D'accord.
Mais encore une fois, les révisions pendant les vacances, ça a du bon, notamment pour ceux qui ont des lacunes, je pense, et qui ont du mal à raccrocher. Mais comment tu fais pour t'assurer qu'ils le font? Oui, il faut mobiliser les parents, mais c'est pareil, les parents peut-être travaillent, ils sont pas forcément là non plus. Enfin, ils ont pas. Nous, on est large avec nos 2 mois de vacances, on a peut-être le temps. Enfin, forcément, quand t'es fils ou fille de prof, ça t'ouvre plus d'opportunités. Mais quelqu'un qui bosse dans un bureau et qui a que 5 semaines de vacances, c'est compliqué aussi de mobiliser tes enfants.
Tes vacances, ils sont pas faits pour ça.
Ah oui, parce que t'as envie d'en profiter aussi, quoi.
Bah oui.
Donc c'est compliqué, quoi. Mais évidemment que l'idéal, ce serait d'avoir un petit planning de révision sans trop les pressurer non plus.
Moi, mon système, c'est, voilà, vous travaillez le matin un petit peu, 2-3 heures, et puis après, l'après-midi, c'est...
2-3 heures?
Oui, et encore, j'ai été plus dure à une certaine époque.
Moi, je pense 20 minutes.
Non, 20 minutes, non. Non, non.
2-3 heures, c'est bien. Hein.
Mais la journée, elle est longue. Je pars toujours du principe que pendant les vacances, les journées sont longues. C'est quoi 2-3 heures dans une journée? Sachant que tout le reste du temps, la journée, si tu commences ta journée à 10h, 9-10h, il faut tenir jusqu'à 23h. 23h, 21h, 22h.
Et tu leur faisais faire quoi?
Les fameux fichiers.
Elle leur sort le 33, le 32, le 31. Un petit oral.
Jusqu'à ce qu'un jour ma fille me dise, maman, j'en ai marre des fichiers.
Oh là là.
Donc.
Moi, ça aurait été la guerre entre nous. T'aurais jamais réussi à me faire faire ça.
Non, mais je pense que ça aide. Je pense que ça aide quand même. Parce qu'il y a des choses qu'elle comprenait pas lorsqu'elle faisait les fichiers et lorsque la notion était revue en classe, ça lui parlait plus rapidement, quoi.
Mais encore une fois, tes profs étaient à ce sens-là.
Oui, c'est vrai, tu as raison.
Et ça joue énormément, quoi, parce
que c'est vrai. Donc nous sommes sur Radio Cause Commune et vous écoutez Regards sur l'école avec Sandra et Prisca en invité et en super prof. Et nous allons écouter, dites le morceau parce que j'ai oublié le nom de l'artiste. Donc Prisca,
Damien David, I was born with a broken heart. Super accent anglais.
Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 et vous écoutez José, Sandra et Prisca dans Regard sur l'école. Donc, avant la pause, justement, Sandra, tu nous expliquais, tu nous parlais de ton traumatisme des fichiers d'été et du fait qu'il y avait, on pouvait apprendre autrement pendant les vacances. Bon, et pour les parents qui tiennent absolument à ce que leur enfant révise pendant les vacances, qu'est-ce que vous proposez comme remédiation, notamment dans le domaine scientifique en maths, par exemple Prisca et Sandra en français, parce que bon, je ne méprise pas les autres matières, mais les fondamentaux quand même reposent sur les maths et le français.
Alors pour les maths, c'est plus compliqué pour le coup. Ouais, pour les maths, c'est beaucoup plus compliqué que pour le français ou l'histoire, parce que pour le coup, nous, les sciences, ce sont vraiment des matières très théoriques. Donc, à part s'entraîner, apprendre les équations par cœur, apprendre les formules par cœur, s'entraîner chez soi, on ne peut pas vraiment faire ça de façon ludique. Les mathématiques, c'est une certitude. Je suis désolée pour ceux qui aimeraient faire ça de façon plus ludique, mais ce n'est pas possible. Voilà, les maths,
pour les petits, peut-être.
Oui. Alors,
aller compter les canards.
Oui, les petits, tu peux faire pas mal de choses.
Oui, à part les petits, mais si on se base au lycée, malheureusement, c'est la théorie pour la théorie. Après, oui, en effet, ne serait-ce qu'en physique, pour la physique-chimie, par exemple, au collège, Pour tout ce qui est mélange homogène, hétérogène, les enfants, s'ils veulent essayer, ils prennent de l'eau et de l'huile. Si ça ne se mélange pas, ben, c'est un mélange hétérogène. Ça se mélange, ben, c'est un mélange homogène. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est intéressant. Après, une fois qu'on s'élève dans les études, tout de suite, c'est moins marrant. Et à part vraiment reprendre ses cours, apprendre ses formules, faire les exercices, ou laisser, malheureusement, à part ça, il n'y a rien de ludique à faire. Contrairement à l'histoire ou au français, où là, ils peuvent lire des journaux, écrire aussi. C'est pas la même chose, malheureusement.
Ça reste théorique, en fait.
Ah ouais, ça reste hyper redondant.
Mais qu'est-ce qui est le plus important, en fait, s'il fallait consacrer un temps à réviser au niveau des mathématiques?
Le calcul mental. Il faut vraiment que les élèves recommencent à calculer de façon mentalement. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'élèves qui n'arrivent pas à compter, même avec leurs mains, en arrivant au collège.
Comment c'est possible? Là, je ne comprends pas.
Ben alors, par exemple, je vais prendre 2 plus 5. On sait que si on fait faire 2 plus 5, on compte 1, 2. Et avec après, doigts, on compte 5 à partir du 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a des élèves qui, au lieu de commencer le 3 à partir du 3, ils vont commencer le 3 à partir du 2. Donc du Oula. Coup, au lieu de dire que 2 plus 5, ça fait 7, ils vont dire que 2 plus 5, ça fait 6. Et ça, c'est une réalité. On a des élèves qui, malheureusement, en arrivant même au lycée, hein, fin collège, qui ne savent pas compter. Et ça, c'est un grave problème. Je le vois au lycée, malheureusement.
Non, on est d'accord que les multiplications, tout ça, c'est pas leur fort. Hein. Ils savent pas.
C'est vrai.
Ils arrivent pas à compter tout seuls à chaque fois. Ils ont la calculette qui est pas loin et c'est le bout du monde s'ils l'ont pas.
Hein. C'est bien. Et donc le calcul mental, multiplication,
Moi, c'est
table d'addition,
divisions.
Les divisions, et alors je donne aussi des cours particuliers à côté, de physique, chimie et de mathématiques jusqu'au lycée. Et c'est vrai que la première des choses que je demande aux élèves lorsque je donne des cours particuliers en mathématiques, c'est récite-moi tes tables de multiplication. Ça peut paraître hyper bête. Mais il y en a certains qui ne vont pas réussir à faire correctement la table de 5.
Je vais te dire honnêtement,
alors
je pense
qu'ils
que
s'en rendent compte.
Si tu me demandes la 7 et la 8, je ne suis pas trop mal non plus.
C'est malheureux, mais le calcul mental, c'est hyper important pour le cerveau, puisque ça entraîne nos neurones et tout. Et le fait de voir qu'il y a des élèves qui ne connaissent pas leur table de 5 correctement en 4e ou en 3e, c'est hyper inquiétant.
Et au lycée aussi.
Au lycée aussi. Alors après, je ne sais pas comment ça se passe en pro, mais...
Pour le coup, en ayant discuté avec des collègues de maths,
c'est même au niveau du français, hein, j'enseigne la physique chimie, mais j'évalue aussi leur écriture. Et c'est vrai que des fois, lorsque je vois qu'ils m'écrivent pas correctement je suis ou j'ai ou donc de la même façon, enfin de la bonne façon, pardon, c'est vraiment des fois c'est une catastrophe. Donc la priorité pour les enfants, c'est réviser les fondamentaux. Lire, écrire, compter. En effet, parmi les matières fondamentales, on est d'accord, on a le français, l'histoire et les mathématiques.
L'histoire.
Ah, l'histoire géo, ça a toujours été l'une des matières fondamentales. En tout cas,
je croyais que c'était maths et français.
Maths, français, histoire, géographie.
D'accord.
À mon époque, c'était ça, quand j'étais...
Oui, c'est surtout le français et les maths.
Ah, j'avais pas retenu l'histoire comme j'ai
dit.
J'aimais pas trop l'histoire, j'avais zappé.
En primaire, dans une journée lambda, t'as forcément des maths et du français, mais t'as pas d'histoire tous les jours de la semaine. Ça fait pas partie. Mais après, c'est toujours de la culture et c'est toujours des choses. De toute façon, l'histoire, ça s'invente pas, hein. Ça s'apprend. Ça fait partie des matières où tu peux pas te débrouiller. Le français, tu peux te débrouiller, l'histoire, pas du tout. Si tu connais pas, tu connais pas. Hein.
D'accord.
Là, je suis en train de corriger le bac pro, je peux vous dire que qu'ils connaissent pas. Donc, du coup, ça s'apprend, hein. Ça, pour le coup.
D'accord. Et en français, donc? Quels sont les fondamentaux à revoir ou à maîtriser conséquences sur la suite de la scolarité?
La lecture. Le problème, c'est que au-delà de lire, c'est comprendre ce qu'ils lisent. Donc, en fait, ils ont besoin de toujours s'entraîner, de lire même des petits textes et essayer d'y donner un sens. Parce que bien souvent, ils savent lire, mais ils ne savent pas comprendre, ni analyser, ni argumenter. Donc, en fait, ils auraient besoin en fait, de lire et peut-être juste parfois en parler avec leur famille, aujourd'hui, j'ai lu ça, ça parle de ça, et qu'ils arrivent à réexpliquer. Et après, dans l'écriture, il y aurait peut-être moyen, je sais pas, qu'ils écrivent quelques lignes tous les jours sur ce qu'ils ont fait de leur journée, ce qu'ils ont vu, histoire pareil, de prendre le pli d'écrire, parce qu'en fait, comme ils ont leur téléphone ou l'ordi, ils n'utilisent pas de stylo. Ils n'ont pas le pli d'écrire. Et du coup, ce serait les choses vraiment à faire qui pourrait au moins maintenir quelque chose pour l'été, quoi.
D'accord, mais au niveau de l'argumentation, faudrait-il encore avoir un interlocuteur en face ?
Oui.
Parce que maintenant, les gens sont concentrés sur leur téléphone, donc avoir quelqu'un voilà, qui soit à notre écoute... Bon, il y a toujours les amis aussi. Hein.
Oui, bah puis après, je pense que t'as quand même des parents qui s'impliquent là-dedans aussi, qui cherchent à discuter avec leur enfant et qui leur demandent d'expliquer. Enfin, on va pas tous dire que, enfin, on peut pas dire que tous les parents sont pas à l'écoute non plus, quoi.
Non, non, bien sûr, il y en a beaucoup qui.
Après,
sont
pour le français, c'est pareil. Hein, quand on a des élèves, enfin, nous, on a pas mal d'élèves allophones. Quand à la maison, ils parlent pas français non plus, c'est compliqué derrière de les entraîner et de parler, quoi.
Finalement, est-ce qu'il ne faut pas encourager les personnes à aller dans des centres socio-culturels ou les maisons pour tous ?
Oui.
Parce que de très nombreuses activités, sorties sont proposées.
Ah bah oui,
et si les parents n'ont pas forcément la disponibilité ou même l'envie, ben, il y a cette ouverture-là, cette possibilité-là.
Oui. Bah ça, ou les centres de loisirs, enfin, il y a plein de choses en fait, dans lesquelles ils pourraient les inscrire. Et encore une fois, se rapprocher des mairies. Il y a des aides en plus qui leur permettent de payer beaucoup moins cher. Enfin, il faut qu'ils se renseignent. Enfin... Il y a quand même pas mal de choses à mettre en place pour essayer de reconnecter son enfant, sans forcément que ça vienne de nous, sinon on peut pas. Ou effectivement, tout à l'heure, tu parlais des maths que les parents pouvaient pas parce qu'ils y comprenaient rien. Moi, j'avoue que ce sera le cas. Hein. C'est-à-dire que si un jour je dois avoir un enfant qui est bien matheux, bon, bah. Je suis pas sûre de pouvoir suivre non plus, quoi. Donc, faut essayer de rapprocher. Parce que le problème des séjours apprenants dont tu parlais au tout début, c'est que c'est pareil, c'est un certain coût. Mais tout le monde ne
lorsque
peut pas.
C'était proposé par l'éducation nationale, je pense que c'est... Bon, je ne me suis pas renseignée sur le prix, mais c'était accessible.
Quand tu parlais des colonies de vacances
non, il y avait vacances apprenantes proposées par l'éducation nationale.
Oui, mais c'était genre... Il me semble bien que c'était en début de vacances ou en fin. Enfin, un
oui,
peu comme
vrai,
l'école ouverte,
vrai.
En fait.
Oui, c'est vrai
juste
que c'est pas
aujourd'hui, c'est l'école ouverte.
C'est vrai.
En fait, c'est
toujours...
C'est
début
à...
ou
oui,
en fin.
C'est ça, c'est que dans l'entretemps, il n'y a rien de proposé. Enfin, je crois pas, enfin, j'en sais rien, mais...
Non, il n'y a rien. C'était au début et à la fin.
Parce que là, aujourd'hui, le principe de l'école ouverte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a des professeurs qui restent sur une ou deux semaines. Je ne sais plus combien de temps ça dure.
C'est 5 jours,
quelques
une semaine.
Jours, ouais. Où, en gros, ils proposent des sorties culturelles ou des révisions s'il y a besoin. Ou d'occuper encore une semaine, histoire que... Mais...
C'est sur volontariat. Hein.
C'est sur volontariat.
Donc, les élèves, spontanément, ils préfèrent rester sur leur téléphone chez eux. Ou avec leurs copains.
Je crois que vous avez toutes les deux, vous en avez fait partie toutes les deux, non,
oui.
Au lycée cette année. Non, l'année dernière.
L'année dernière, j'ai fait l'école ouverte et je ne referai plus.
Vous aviez.
Au moins c'est clair.
Vous aviez du monde.
Ouais, on avait quand même du monde. Hein.
Ben, l'avantage, c'est que ceux qui s'inscrivaient ou qui participaient étaient intéressés par les activités proposées. Ça, c'est important.
T'avais fait quoi
Vas-y.
On avait fait le tribunal de Paris.
Oui, c'est vrai. Tribunal
après...
de Paris, visite gratuite,
ouais.
Avec des affaires très intéressantes. Bon, en tout cas, moi, ça me plaît.
Ah oui, ça, c'est une très bonne sortie, d'ailleurs. Ça. On avait fait aussi le mémorial de la Shoah.
Oui, le mémorial de la Shoah, c'est vrai.
Ah, mais c'était pas mémorial de la Shoah, Notre-Dame et la mosquée de Paris.
La mosquée de Paris.
Oui, c'est ça, c'était pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Hein.
Et il y avait la radio aussi. Tu avais fait la radio, moi, j'étais pas là pour la radio. Tu avais fait aussi la radio, je crois.
Ah oui, c'est vrai.
T'avais
pas
là
une émission de radio.
Tu sais très bien ce qu'il faut prendre.
Je prononcerai pas le nom de l'émission, ça choquerait Olivier ici. Il va me chasser définitivement. Donc oui, on avait assisté à une émission de radio qui passe à la télé aussi.
Ouais.
Et on avait gagné même des places pour la Foire de Paris. Donc non, les élèves étaient contents pour chaque visite. Ceux qui s'étaient inscrits étaient satisfaits. Hein.
C'était hyper intéressant aussi. Ça a plu les élèves.
Parce que ça, c'est un truc aussi avec lequel on bataille beaucoup quand on est en cours. C'est que quand on leur propose une sortie, ils râlent. Allez, je dirais, il y en a 65-70% de la classe qui râle parce que forcément, qui dit sortie dit qu'on rentre plus tard. Ouais, mais aujourd'hui, on devait terminer à 15h. Du coup, on rentre à 18h. Je veux pas y aller. Donc, du coup, à chaque fois, on est là. Oui, mais tu verras, c'est cool. Tu vas voir autre chose que le lycée et tout ça. Et à chaque fois, c'est un peu aussi. C'est décourageant parfois de les emmener en sortie à cause de ce genre de remarques, quoi.
D'accord. Et donc, est-ce que vous auriez des propositions de sorties intéressantes? Bon, là, nous sommes sur Paris, c'est vrai qu'il y a plus de possibilités, mais intéressantes pour les parents, des endroits où ils pourraient emmener leurs enfants.
Pour les sciences, il y a le musée des arts et métiers.
Ah oui, j'ai visité cette année, je crois, ou l'année dernière.
Il y a le musée des arts et métiers pour les sciences.
C'est vrai, et il y a de quoi faire.
Il y a pas mal de choses à faire, ouais. C'est intéressant en plus.
On peut le faire en deux fois, parce que c'est vrai que moi, je l'ai fait dans la même journée. C'était fatigant. Ah. Et donc, j'ai bâclé la fin de la visite, j'en pouvais plus.
Ouais.
Et je me suis dit, ah là là, c'est dommage, mais j'en pouvais plus physiquement.
Après, il y a le salon de la chimie qui est à Vincennes, pour ceux qui sont intéressés par les sciences.
Et qu'est-ce que c'est le salon de la chimie alors ?
Bah en fait c'est plein de... Tu as des écoles, tu as des scientifiques qui viennent faire des expériences, des trucs comme ça.
Il y a des ateliers ?
Ouais, des petites expériences comme ça. Est-ce qu'il y a des ateliers ? Ça dépend des années. Des fois oui, des fois non. Ça fait un temps que je ne suis pas allée, donc je ne vais pas confirmer.
D'accord, il y a la Cité des sciences aussi au niveau des sciences.
Ouais.
Parce que moi j'avais pris l'abonnement à l'année, bon c'est vrai que ça date, hein. Mais je trouvais que ça coûtait pas cher. Bon, à mon époque qui date, on va dire il y a 15 ans à peu près, j'avais pris la carte, 75€ l'année, pour bénéficier de... je sais plus, il y a les maisons... Comment ça s'appelait, là, à la Cité des sciences pour les enfants ? Olivier, non, tu te souviens pas ?
La Cité des enfants.
Ah, c'était ça, la Cité des enfants.
Okay.
Il y a la Cité des enfants, mais après, il y avait plein d'expositions permanentes, temporaires. Donc, voilà, j'avais investi 75€ à l'année. Mais,
ouais, c'était
voilà.
90 hein, quand je l'ai fait.
T'as peut-être fait plus tard que
moi. Bah, oui, non, mais c'est pour dire que ça augmente.
Oui, oui. Là, c'est le problème.
Oui, mais en fait, si tu te dis que tu peux y aller une fois tous les deux mois,
c'est rentable. Ouais, tout à fait. C'est rentable. Parce que t'as accès à toutes les expos permanentes et du coup elles sont gratuites et toutes les expos événementielles et effectivement c'est plutôt riche quoi.
Et il y a une bibliothèque aussi là-bas ou médiathèque, je sais pas comment ils l'appellent.
Ouais.
Et pour terminer, lorsque j'emmenais mes enfants pour terminer, j'ai laissé il y a des espèces d'ordinateurs avec des jeux. Pas des jeux comme des jeux vidéo, mais...
Oui, des jeux interactifs.
Où il y a une histoire, quelque chose d'un peu plus réfléchi. Donc, lorsqu'on était fatigué, parce qu'on restait vraiment toute la journée, ils terminaient dans leur bibliothèque, là. Et si tu y vas même, je sais pas, une fois tous les deux mois ou à chaque fois qu'il y a des vacances et que tu as plusieurs enfants, c'est rentable. Ça vaut le coup d'investir. Et les gamins, ils sont heureux.
Mais du coup, je rebondis, la bibliothèque, les médiathèques... C'est des accès qui sont gratuits aussi, donc en fait, faut pas hésiter à emmener ses enfants une heure, se poser avec lui pour qu'il lise un petit peu. Parfois, ils font pareil, des activités, c'est une des choses qu'on peut faire et qui coûte rien, quoi.
C'est vrai, c'est gratuit. Et dans la ville où j'habite, la médiathèque propose même une salle jeux vidéo. Ils ont trouvé le moyen d'attirer les jeunes, vu que bon, ça fait pas rêver une médiathèque ou une bibliothèque, donc... ça attire des jeunes qui vont peut-être passer devant les livres et peut-être qu'un jour, ils vont se dire « Ah ben tiens, j'ai peut-être emprunté un livre ou lire des magazines. » Et puis les jeunes, ils sont branchés manga ou BD, donc...
Ça reste de la lecture, hein. Tant qu'ils lisent, on encourage. Lisez ce que vous voulez, mais lisez, c'est important.
Et vous, parents, ça vous permet aussi de vous reposer.
Ah ben,
moi, j'ai passé des après-midi à emmener mes enfants, voilà. Vous lisez ce que vous voulez... Moi, je me reposais et puis avant la fin, ils sélectionnaient les livres qu'on allait réserver, qu'on allait emprunter. Donc, c'est vrai que ça, c'est gratuit. Il y a les ludothèques aussi.
Mmh. Oui, c'est vrai que
c'est vrai.
Ludothèques, elles sont moins connues, mais ce sont des espaces de jeu, des salles de jeu, on peut dire. Un peu comme la médiathèque, sauf qu'il n'y a que des jeux.
Des jeux de société.
Toutes sortes de jeux de société, des jeux à énigmes, tous les types de jeux de... Les jeux de rôle, il y a tous les jeux imaginables. Donc, dans les ludothèques, il y a d'autres enfants aussi qui sont présents. Donc, lorsque j'emmenais mes enfants, c'est vrai qu'ils jouaient avec d'autres enfants ou avec moi aussi.
Ça permet de garder le lien. Hein,
oui, c'est ça. Et il y a de quoi faire.
Mm.
Bon, après, quand il fait beau, on préfère être ailleurs qu'enfermé dans une salle. Mais
après, tu peux faire le tour de jardin, tu peux aller voir pas mal de choses. Il y a plein de jardins qui sont accessibles, qui sont gratuits. Ou du coup, tu peux... Enfin, t'as des panneaux, t'as des choses qui te permettent aussi quand même de découvrir et de garder ce côté un peu culturel, quoi. Allez dans les jardins, faites des sorties, c'est toujours un pique-nique, comme ça, ça ne coûte pas trop cher. Il y a des choses, il y a toujours des choses à faire quand même.
Sinon, ils peuvent aussi regarder des documentaires.
C'est-à-dire ?
Je veux dire, un élève qui est passionné d'histoire, il peut regarder par exemple Secret d'Histoire.
j'ai déjà entendu parler de cette émission.
Tu connais ? C'est sur France 2, Stéphane Bern.
Ah d'accord.
tu connais pas.
Et non, non, si, maintenant que tu me dis ça, oui, mais parce que l'histoire, c'est vraiment...
C'est pas ton truc.
Non, non, du tout. Donc,
j'ai un petit crush sur Stéphane Verne, moi, je suis pas du tout. Je suis pas...
en science, y a, c'est pas sorcier aussi. Enfin, il y a YouTube. Et ce qui est bien avec YouTube, c'est que... Alors, certes, bon, du coup, ça leur demanderait d'être sur un écran, mais ça peut être très utile parce qu'il y a plein de vulgarisations scientifiques. Il y a plein de YouTubeurs qui... qui...
Non, vas-y, continue.
Voilà, qui aime bien, qui explique les sciences de façon très ludique et très, très simple aussi. Donc, c'est vrai que pour ceux qui appréhendent un peu, ils peuvent toujours aussi, ceux qui ne veulent pas rester chez
oui,
eux.
Tu as des podcasts.
Il y a des podcasts, il y a plein de choses comme ça aussi. Donc, il ne faut pas hésiter. YouTube, il y a des choses hyper intéressantes.
Et vous pouvez sortir aussi, jouer avec vos amis tout court aussi.
Ouais.
Il y aura toujours des échanges, peut-être des débats pour les plus âgés, des collégiens, des lycéens. Voilà, ce sera l'occasion de travailler l'argumentation. Les filles, l'émission va bientôt arriver à son terme. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, Prisca? Un conseil à donner aux parents
Si vous voulez que vos enfants soient performants vraiment partout, faites-leur réviser les fondamentaux. C'est vraiment hyper important. Les bases, les bases. Dans toutes les matières.
Bon, Sandra n'a pas l'air convaincue. Un dernier mot, Sandra?
Non, mais si, je suis d'accord. Mais laissez-les respirer aussi, c'est les vacances, quoi.
Oui, mais les vacances qui durent quand même, hein, 2 mois presque. Hein.
Oui, mais on fait un bon mix des deux, quoi.
Voilà.
On les laisse souffler, et puis on revient à la réalité 2 semaines avant, histoire qu'ils réalisent qu'à un moment donné, on va repartir pleine bourre. Voilà.
Voilà, ben ce sera le mot de la fin. Il faut trouver le juste milieu, un bon équilibre pour que vos enfants ne soient pas traumatisés par les fichiers, les révisions et qu'ils puissent voilà, trouver du plaisir dans tout ce qu'ils pourront faire. Et ouvrez-les vers l'extérieur, vers la culture, les activités, la communication, la musique.
Faites-les parler, échanger.
Oui, discuter, même si leur conversation ne vous passionne pas, faites semblant.
Oui. Parler, c'est la base de tout. De toute façon.
La communication. Mm. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous pour votre écoute. Merci les filles Sandra et Prisca d'avoir accepté d'intervenir dans l'émission.
Merci à vous.
Merci à toi.
Et je vous
merci
souhaite
à vous.
Pas encore de bonnes vacances. On sera là dans 15 jours, mais voilà. À bientôt. Fini, hein. Prenez soin de vous.
Au revoir.
Au revoir.
La tête, ce monde est cruel.
Ce monde est cruel. Et comme je suis bleu, blanc, rouge, je suis Crips et finalement Blood. Fait que ce monde est cruel.
Ni se nourrir, ni se loger n'est gratuit. Je crois qu'avec ça, j'ai tout dit.
Ce monde est cruel.
Ce monde est cruel.
Ce monde est cruel.
Ça y est, j'ai tout dit.
Pas manger, ça fait mourir. Yeah. Et je suis habitué au chauffage. Yeah. Tes besoins vitaux sont payants. Yeah. T'as compris la prise d'otage. Yeah. Depuis tout petit dans la merde.
Merde.
Tu sais qu'il faudra mailler.
Yeah.
Au moins un peu pour loyer.
Yeah.
Au moins un peu pour grailler.
Yeah.
Depuis tout petit dans la merde.
Merde.
On t'apprend à travailler.
Yeah.
Personne va te ravitailler à l'œil. Personne va s'apitoyer. Ma gueule,
ce monde est cruel.
Ce monde est cruel.
Ce monde est cruel.
Ce monde est cruel.
Et je peux développer encore. Je te le fais sans aucun effort. Pour travailler, donc pour manger. On te prend à 3 ans, on te lâche à 25. Tes meilleures années, si tu pars avant, tu démarres en bas de la pyramide. Et tu fermes ta gueule, tu fais les pires détails, tu gravis les étages. Au ralenti, tu tapines en stage, t'es sous-payé. Et on t'oblige à sourire, car c'est une chance. Déjà d'être là avec tes vieux diplômes. Hein? Bon, parlons des diplômes. Personne n'est sûr, mais fais-le quand même pour la sécurité. D'ailleurs, toute ta vie, pense à sécuriser. Même si ta masse ne dépense pas, on sait pas ce qui peut arriver. Hein? Tu peux mourir, c'est vrai. Mais si c'est pas le cas, tu peux souffrir du manque, être interdit par ta banque. Et ça, ça fait peur.
Et ça, ça fait peur.
Ouais, les banques, ça fait peur.
Ouais, les banques, ça fait peur.
Des banques privées s'enrichissent, des pays s'endettent. De tout petits groupes très riches, face au reste du monde, face au bétail, face à la masse de salariés sans tête. N'oublie jamais qui gagne quoi lorsque tu taffes. Si ça te fâche et que tu veux plus, n'oublie jamais que tu manges plus. Ça ressemble à un choix. Si c'est pas de l'esclavagisme, c'est quand même pas vraiment très humaniste. J'emploie des mots à me faire sucer la bite. Ce sont des cruels comme se faire des amis. Ce sont des cruels comme tenir sa racule. Déjà faut l'avoir, faut passer les tests. Je sais que sans le rap je referai partie. Des 95% des garçons qui n'ont qu'une ou deux filles dans leur vie. Parce qu'ils sont pas très beaux, parce qu'ils sont pas très riches. Et même pas vraiment drôles, donc un peu invisibles. Je ferai pas de généralité. Mais franchement les meufs sont redues. Le gentil garçon que j'étais s'en souvient dans son lit. J'ai douté de tout. Merde.
à m'en couper le cou. J'étais sûr d'être le blême. La preuve en est, je me suis amélioré et c'est maintenant qu'on m'aime. C'est pas des lol, j'ai dit deviens génial. Deviens spécial, ah ouais, dans le pire du pire. Tu pourras trouver quelques fétichistes. Ce monde est cruel, il te reste le sinistre. Tu ne nais pas dans l'amour enfoiré, on t'éduque à la honte, on t'éduque à la haine. On s'habitue à tout, on t'apprend qu'être aimé se mérite. Qu'il y a bien longtemps de ça, des êtres aimés sont venus. Qu'ils nous ont créés, qu'on les a déçus. Qu'ils nous ont maudits comme le peuple élu. Hein? Qu'au moindre péché, t'es bon pour l'enfer. Une éternité de flammes et torture. Fais doucement le sexe, fais doucement le rap, écris tes ordures. Hey. Il faut que tu sauves la planète, parce que c'est sûr c'est ta faute. T'aimes à ton pot d'échappement, t'aimes à ton déodorant. Tu mets le carton dans la verte, la pollution c'est ta faute. Et le réchauffement c'est la chatte à ta mère. Ce monde est cruel et culpabilisant. Ce monde est cruel et abrutissant. On te donne pas les armes pour voir la magouille. On te donne Chalgoumi.